France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La Belgique a dit non, mais Bruxelles veut encore y croire. Le président du Conseil, Donald Tusk, affirme que la signature après-demain de l'accord de libre-échange avec le Canada est encore possible. Correspondance à Bruxelles avec Pierre Bénazé. La guerre contre Daesh, les forces irakiennes continuent de progresser vers Mossoul. Les ministres de la Défense, les 7 pays les plus engagés dans la campagne, réunis à Paris pour étudier des pistes d'intensification de cette campagne militaire et la suite, évidemment, après la prise de Mossoul, analyse de Nadine Epstein. Dans le sud-ouest du Pakistan, 3 kamikazes font irruption dans une académie de police. Ça se passe à Quetta. Une soixantaine de personnes ont été tuées. Récit sur place avec Michel Picard. En France, à Calais, poursuite de l'évacuation des migrants vers les centres d'orientation, suivi par Marie-Pierre Véraud et Jean-Jacques Urvoas, qui annonce la fin des unités dédiées pour détenus radicalisés au profit d'une prise en charge davantage axée, dit-il, sur la sécurité. Explication avec Pauline Renoir dans cette édition. L'invité de la séquence interview, Benoît Apparu, député Les Républicains de la Marne et soutien d'Alain Juppé. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Je vous propose une sociologie électorale de l'Amérique de Donald Trump avec l'historien et démographe Emmanuel Todd, qui en revient des États-Unis, notre invité. Il sera à partir de 12h55, Antoine Mercier.
La Belgique a donc dit non, mais les institutions européennes continuent de vouloir y croire, en tout cas l'affirme. Le président du Conseil, Donald Tusk, affirmait hier soir que la signature de cet accord de libre-échange qui est prévu pour après-demain jeudi entre l'Union européenne et le Canada est donc encore possible. Quelques heures plus tôt, pourtant, le Premier ministre belge Charles Michel avait averti ce même Tusk que son pays ne pourrait pas signer en l'état ce traité. Il reste donc 24 heures à peine maintenant avant une éventuelle annulation ou un maintien de ce sommet pour la signature. Pierre Bénazé, bonjour.
Bonjour Antoine.
Que peut-il se passer de nouveau dans ce très court délai ?
Mais en réalité, pas grand-chose, parce que le maintien du sommet, ça ressemble fort à la méthode Coué. Le gouvernement fédéral belge et la Commission européenne cherchent à démontrer aux Wallons que les questions qu'ils posent trouvent leur réponse dans les lettres de clarification envoyées dans la dernière décade. Il va falloir aussi qu'ils leur garantissent que ces assurances seront gravées dans le marbre, qu'elles auront une valeur juridique contraignante. Mais ça ne se fera certainement pas d'ici jeudi. La Commission européenne dit s'armer de patience et exclure tout ultimatum. Certains y évoquent en sous-main un délai de quelques semaines. Même son de cloche de la part d'Elio Di Rupo, l'ancien Premier ministre belge, qui préside le Parti socialiste francophone, parti auquel appartiennent le ministre-président Wallon et une majorité de députés du Parlement régional. Le président du Parlement européen affirme d'ailleurs ce matin que le sommet européen doit être repoussé et cela pourrait constituer une victoire symbolique suffisante pour le gouvernement wallon.
En tout cas, la Wallonie et son Parlement, que la presse compare ce matin à un village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, se retrouve propulsé sur le devant de la scène. D'une part, il subit de très fortes pressions donc des institutions européennes. D'autre part, il reçoit de très nombreux soutiens. Comment est-ce que la Wallonie vit cette période assez spéciale ?
Alors c'est vrai que les pressions sont nombreuses, on peut ajouter à l'UE la région flamande, le gouvernement fédéral belge, les organisations patronales. Pour le reste, l'ambiance est un peu le quart d'heure de célébrité, les voix de ceux qui sont favorables à l'accord ont du mal à se faire entendre. Il faut dire qu'effectivement les soutiens sont de toutes parts pour saluer la résistance wallonne et de tous bords aussi. En grande partie, les hommages viennent d'abord de gauche, des altermondialistes, des opposants en libre-échange, que ce soit les syndicats français FO-CGT, les quelques 8000 manifestants du week-end à Amsterdam ou les organisations de la société civile en Allemagne, au Québec et j'en passe. Mais il y a aussi des hommages qui proviennent de l'extrême inverse sur l'échiquier politique, avec par exemple en France celui du Front National. Le Parti Socialiste se refait en tout cas une popularité en Wallonie, mais il ne restera peut-être pas seul très longtemps, parce que si le feu vert à cet accord devait être donné un jour par les 28 pays de l'UE, on entrerait ensuite dans la période des ratifications et beaucoup d'autres parlements d'Europe pourraient alors eux aussi donner leur avis.
Pierre Bénazé, merci beaucoup. En direct de Bruxelles, on salue l'invité de la séquence interview, Benoît Apparu. Bonjour.
Bonjour.
Soutien d'Alain Juppé. Est-ce qu'il faut faire pression sur la Wallonie pour qu'elle sorte de ce refus obstiné ?
Chaque nation est indépendante. Et chaque nation a le droit légitime, d'après les traités européens, de donner son point de vue et d'exercer son droit de veto si nécessaire. Là où on a une petite complexité, c'est que ce n'est pas la Belgique qui s'oppose au traité, mais une des trois régions autonomes...
Oui, mais ça marche comme ça, en Belgique.
J'entends bien, marche comme ça en Belgique, mais c'est un problème. Parce que si effectivement, maintenant, chaque région autonome de chacun des pays peut bloquer, c'est plus des accords à 28 qu'il nous faudra, mais des accords à 50, ce qui poserait problème. Premier élément. Deuxième élément, sur le fond maintenant, parce que c'est quand même ça qui compte. Distinguons bien les deux traités qui sont en discussion. Le CETA d'un côté, avec les Canadiens, et puis le TAFTA de l'autre, avec les Américains. Il me semble que les contenus sont très différents en la matière, et que l'accord CETA va plutôt dans la bonne direction. Il permet d'ouvrir, par exemple, les marchés publics canadiens aux entreprises européennes, et notamment aux PME françaises. Il permet de protéger un certain nombre de produits français, des fromages, par exemple, le fameux exemple du camembert, au Canada. Donc ça va plutôt, me semble-t-il, dans la bonne direction. Et donc oui, il faut que nous signions cet accord-là.
Benoît Apparu, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes pour la séquence interview. On salue aussi l'invité de la dernière partie de la grande table, Emmanuel Todd. Bonjour.
Bonjour.
De quoi ce blocage wallon est-il le nom ?
Ça, je sais, je n'ai pas suivi dans les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est faux de se représenter les Wallons en petits villages gaulois attardés. C'est-à-dire, moi, je travaille plutôt sur les États-Unis.
C'était plutôt valorisant, c'était plutôt l'image d'Astérix.
Non, ouais. Mais c'est chargé négativement sympa. C'est-à-dire, c'est l'idée, on fait de la résistance, et puis c'est l'Empire romain qui arrive et qui va triompher. Alors qu'en fait, tout le problème des élections américaines, qui sont des élections absolument décisives, toute la dynamique des élections américaines s'est faite sur la contestation du libre-échange et d'un certain type de migration internationale.
Avec à la fois
la percée avortée de Sanders, mais qui a quand même pas mal secoué les démocrates, et ça ne fait que commencer, c'était sur le thème du libre-échange. Et lors du ralliement de Sanders à Hillary Clinton, que j'ai suivi comme beaucoup de gens à la télévision, ce qui agitait les partisans de Sanders, c'était ces thématiques-là. Trump, la personne Trump, c'était... bien sûr la question des migrations internationales et des Mexicains, mais c'était aussi la contestation du libre-échange.
Ce que vous voulez dire, c'est que cette contestation, elle est dans l'Occident
généralisée.
Comme souvent,
on rigole des Belges. Je suis capable de faire la différence entre les Bruxellois et les Wallons. Mais que là, c'est les Wallons qui sont dans le coup, et c'est les Européens qui sont le petit village gaulois qui n'a pas encore compris que ce qui vient, pour les 20 ans qui viennent, c'est la régulation du libre-échange et la sortie d'un certain type de globalisation. C'est nous les ringards, à Paris.
Si alors, je peux me permettre une nuance.
On a
une petite nuance.
En fait.
C'est justement...
J'ai dit à Paris, hein, j'ai pas dit à Paris.
Hein. J'ai bien compris. Juste peut-être une petite nuance, peut-être un point de désaccord. C'est justement parce qu'on va poser des règles entre les grands États, type ce genre d'accord-là, qu'on va réguler les choses. Aujourd'hui, quand effectivement... les Canadiens peuvent faire, je reprends l'exemple du fromage, ce qu'ils veulent en termes de copie des fromages français. En les appelant camembert, en les appelant brie, en les appelant ce que vous voulez. Il n'y a aucune régulation. Quand vous signez un accord entre l'Union européenne et le Canada, c'est bien parce que vous mettez des éléments de régulation. C'est juste l'inverse.
Est-ce que ces accords sont une régulation ou pas ? C'est ça la question, mais malheureusement, c'est intéressant. On va pas.
Je crois qu'il faut toujours se méfier.
On ne va pas faire le débat. Emmanuel, vraiment 15 secondes.
En termes de valorisation pour nous du vin et du fromage. C'est pas avec ça qu'on va dominer le monde.
Voilà, on arrête là. Merci beaucoup. Emmanuel Todd, on vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table. Les forces irakiennes continuent de progresser vers Mossoul. Il y a plusieurs villages alentours qui ont déjà été repris par la coalition. Et la coalition s'interroge maintenant sur la manière de pénétrer dans la ville elle-même, indépendamment de ces questions militaires et stratégiques dont on va reparler. Il y a cette situation humanitaire. Philippe Frandé, vous êtes toujours sur place. Et les organisations humanitaires redoutent maintenant le pire.
Oui, car si les petits villages qui sont repris depuis une semaine au groupe État islamique sont vides de tout civil, ce qui facilite d'ailleurs la tâche des forces de sécurité. À l'inverse, Mossoul, la deuxième ville d'Irak, accueille elle encore en ce moment entre 1 million et 1 million et demi de civils. Tous sont bloqués dans une ville forteresse encerclée que les djihadistes protègent avec des mines et des snipers. Mais lorsque les premiers soldats irakiens vont entrer dans Mossoul, il est plus que probable que des milliers, des dizaines de milliers d'habitants fuient au milieu des combats. Alors ici, autour de Mossoul, plusieurs camps sont en construction. Certains sont d'ailleurs en ce moment encore sur des lignes de front. Une dizaine de camps au total, dont celui de Dibaga. Risgar Ali est le directeur du camp et il est inquiet.
Honnêtement, ça va être un désastre. Le manque de place pour accueillir les déplacés va être le pire problème pour nous. On espère que rien de grave ne va arriver. Mais si les déplacés sont très nombreux, alors on ne sera pas prêt. car la préparation des camps est trop lente. Et si ça arrive, je ne peux pas vous décrire ce que va être la situation. Ce sera comme après Fallujah. Les gens dormaient par terre sans nourriture. On espère que ce scénario n'aura pas lieu ici. En tout cas, on se prépare au maximum.
Voilà, et dans le pire des cas évoqué par le directeur du camp de Dibaga, 1 million de personnes pourraient quitter Mossoul dans les prochaines semaines, et ce alors que selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, il n'y aurait pour l'instant que 150 000 places disponibles.
Philippe Randé, merci beaucoup. Non loin de Mossoul, donc, avec les forces de la coalition, les ministres de la Défense des pays qui sont les plus engagés dans la campagne aérienne alliée et la formation des forces irakiennes aussi sont réunis en ce moment à Paris, au ministère de la Défense. Il y a 7 pays concernés, les États-Unis, la France, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, et ils doivent faire un bilan des premières actions entreprises et aussi étudier, je cite, les pistes d'intensification de cette campagne militaire. Nadine Epstein.
Oui, et les actions militaires de la coalition internationale apportent prioritairement un appui aérien aux Irakiens et aux Kurdes qui, eux, sont en première ligne sur le terrain contre Daesh. Ainsi, depuis le 17 octobre, 80 villages autour de Mossoul ont été repris aux djihadistes et l'organisation État islamique se retrouve en difficulté par les bombardements quotidiens, notamment ceux lancés contre les sites de production de pétrole dont le trafic est l'une des principales sources de revenus de l'EI, et les défaites sur le terrain, la baisse de ressources entraînent, selon des experts, des tensions internes au sein de Daesh, perte de capacité de recrutement, de raquettes de la population et perte de matériel et défection de combattants. Toutefois, il y a à Mossoul 5000 djihadistes. Que vont-ils faire? Quelle stratégie suivront-ils contre la reconquête de la deuxième ville d'Irak? Les militaires de la coalition internationale examinent toutes les hypothèses qui vont d'une lutte à mort à Mossoul, avec peut-être l'arrivée de renforts de centaines de djihadistes venus de Syrie, à une tentative de fuite généralisée, ce qui relancerait les possibilités d'attentats, notamment en Europe. Pour l'instant, l'EI tente de détourner les forces irakiennes de Mossoul. Après une attaque surprise à Kirkouk, mise en échec, Daesh vient de s'emparer de la moitié d'une ville isolée en plein désert dans l'ouest de l'Irak, sur la route qui va de la Syrie à la Jordanie. La majorité des 13 pays alliés reconnaît qu'il faut augmenter le nombre de forces spéciales et leur capacité en collecte de renseignements. Pour la France, le dossier militaire et le volet diplomatique vont de pair, mais une grande et unique coalition contre l'EI, incluant la Russie, a échoué. Moscou n'est pas représentée aujourd'hui à Paris. Et de son côté, la Turquie menace aujourd'hui de lancer une opération terrestre dans le nord de l'Irak si elle se sent menacée.
Merci Nadine Epstein. Et puis le groupe État islamique a lancé aussi des contre-attaques pour tenter de desserrer l'étau. Il s'est emparé notamment de près de la moitié de la ville de Rutba, qui est une ville isolée en plein désert dans l'ouest de l'Irak, sur la route qui va de la Syrie à la Jordanie. Dans un tweet dimanche, Donald Trump estimait que l'offensive contre Mossoul était en train de tourner au désastre total. Les États-Unis passent, selon lui, pour des bénets. Et propos qui lui ont valu hier donc une réponse de sa rivale Hillary Clinton. Il annonce la défaite alors même que la bataille n'a pas commencé, dit l'ancienne secrétaire d'État devant 4000 personnes qui étaient rassemblées pour un meeting à Manchester, c'est dans le New Hampshire. Il montre au monde entier ce que cela veut dire d'avoir un commandant en chef qui n'a pas les qualités requises, mais le candidat républicain qui était hier lui à Tampa près de Miami en Floride affirme lors d'un gigantesque meeting qu'il est en train de gagner, et pas seulement en Floride. Emmanuel Todd, vous nous direz tout à l'heure si vous croyez à la victoire de Donald Trump, mais en un mot.
Impossible. Comment?
Vous n'en savez rien.
Non, je veux dire, il est en train de remonter légèrement dans les sondages, et qu'il y a une grande campagne contre lui, c'est un fait divers. De toute façon, les sondages dans une situation aussi nouvelle sont pas complètement fiables, dans un sens ou dans l'autre. C'est comme le Brexit, la veille on annonçait la victoire du Remain en Bretagne. Donc quand un phénomène est complètement nouveau, les sondages ne sont pas fiables. Enfin, cela dit, ces chances apparaissent faibles quand même.
Alors, on vous retrouve pour parler évidemment de tout ça dans quelques minutes pour la dernière partie de la Grande Table. On passe au Pakistan, puisqu'il y a eu un attentat qui a été deux fois revendiqué d'ailleurs par les talibans d'une part et par l'État islamique d'autre part. 3 kamikazes qui ont fait irruption dans une académie de police à Quetta, dans le sud-ouest du pays, tuant une 60aine de personnes. Récit de Michel Picard, qui est notre correspondant à Islamabad.
L'assaut, minutieusement préparé, a débuté par des tirs coordonnés, puis l'intrusion dans les dortoirs où sont habituellement logés 700 recrues. Les tirs ont duré une bonne partie de la nuit. De très lourds renforts de l'armée et de la police ont été déployés. Il aura fallu attendre 4h30 ce matin pour que les échanges de feu cessent, quand deux des assaillants ont déclenché leur ceinture d'explosifs au milieu des jeunes policiers. Malgré la revendication de l'organisation État islamique, les autorités attribuent l'attaque à une faction du groupe islamiste Lashkar-e-Jhangvi, allié des talibans pakistanais, piste issue des conversations téléphoniques entre les assaillants et des interlocuteurs basés en Afghanistan. Après l'attaque de Lahore le lundi de Pâques visant la minorité chrétienne qui avait fait plus de 70 morts, celle en août visant des avocats à Quetta qui avait fait 75 morts, les terroristes ont cette fois frappé massivement de jeunes recrues de la police. Le Premier ministre a annulé tous ses rendez-vous pour se rendre sur place. Il avait dénoncé en septembre la nouvelle stratégie des groupes terroristes qui s'en prennent désormais au Pakistan, avait-il dit, à des cibles faciles. Les autorités vont donc devoir s'adapter en ne limitant plus le renforcement de la sécurité à des lieux symboles de pouvoir, mais en protégeant de très nombreuses cibles potentielles.
12h45 à Calais, les travaux de déblaiement prévus ce matin dans le camp de migrants ont pris quelque peu du retard. Hier, c'était 1900 personnes, à peu près le tiers des habitants, qui ont été évacués vers des centres d'accueil qui sont répartis en France. Aujourd'hui, 45 quarts doivent encore quitter Calais. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
On suit avec vous ce processus. Les migrants sont donc évacués vers ces centres d'accueil et d'orientation. Il faut replacer évidemment toute cette opération dans le contexte général de la politique mise en place par le gouvernement.
Bah oui, c'est la montée en puissance, en effet, de ces CAO ouverts depuis un an environ, plus de 450 à l'heure actuelle. L'objectif est d'abord d'offrir un toit, un lieu où se poser et réfléchir à son avenir. Les migrants de Calais n'avaient en effet pas le désir de vivre en France. Il leur faut maintenant repenser un projet de vie et dans ces CAO, il y a une assistance juridique, normalement l'aide d'interprète ainsi qu'un suivi psychologique et sanitaire essentiel pour des personnes qui arrivent dans un état souvent très précaire. Les premiers partis hier et ce mardi volontaires auraient déjà été convaincus et devraient donc déposer une demande d'asile. L'OFPRA s'est engagé à l'examiner en 3 mois. Si cette demande est acceptée, le demandeur est censé être logé ensuite en CADA et recevoir une allocation d'attente de quelques euros par jour le temps que sa demande soit traitée puisqu'il n'a pas le droit de travailler. Ceux qui ne souhaitent pas demander l'asile ont vocation à rentrer chez eux, volontairement ou pas. L'aide au retour a été doublée et il semblerait qu'un nombre significatif de migrants la saisissent. Pour les autres, les associations redoutent des expulsions massives. 300 places auraient été réservées dans les centres de rétention, assure la CIMAD. Le gouvernement s'en défend, mais assume ses retours forcés. La PAF a été mobilisée. Enfin, il y a ceux qui ont déposé leurs empreintes, voire une demande d'asile dans un autre pays européen, notamment en Italie. Pour ces cas-là, hormis les plus vulnérables, le gouvernement français entend les renvoyer dans le pays d'entrée, dans l'Union. C'est donc la politique pour faire disparaître ces camps. Mais la mécanique pourrait s'enrayer, d'abord parce qu'il n'y a pas un nombre extensible de places, que ce soit en CAO ou en CADA, et qu'il faudra rendre ces CAO souvent des lieux prêtés pour quelques mois par les municipalités. Que se passera-t-il dans 3 mois? Pour l'instant, pas de réponse. De l'aveu même du ministère, avec un an de recul sur les 6000 personnes qui sont passées par ces centres d'accueil et d'orientation, un tiers sont aujourd'hui en CADA, un tiers sont toujours dans les CAO et un autre tiers a disparu dans la nature. Rien n'est dit sur les prochaines arrivées, puisque les arrivées et les traversées de la Méditerranée n'ont pas cessé. Et on vient de voir à l'instant qu'en Irak, avec les nouvelles opérations qui se préparent, eh bien de nouvelles vagues de réfugiés devraient se produire.
Merci Marie-Pierre Véraud. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, annonce ce matin la fin des unités qui étaient dédiées pour les détenus radicalisés. Initiative lancée il y a seulement 9 mois. Jean-Jacques Urvoas explique ce matin les raisons de l'abandon de cette politique au profit, dit-il, d'une prise en charge davantage axée sur la sécurité. Pauline Renoir, vous avez assisté à cette conférence de presse.
Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, dresse un bilan en demi-teinte pour ces unités de prise en charge de la radicalisation. Les personnels pénitentiaires ne sont pas assez nombreux au sein de ces unités dédiées pour suivre les détenus radicalisés et violents. Alors, le ministre de la Justice prévoit la création de 6 nouveaux quartiers entièrement dédiés à l'évaluation des détenus, notamment en région parisienne. 2 structures vont être créées à Fleury-Mérogis et une à Osny. Il s'agit de tirer les leçons de l'agression de 2 surveillants à la prison d'Osny en septembre par un détenu. 2 autres unités seront installées à Bordeaux et à Marseille. Concrètement, 100 de détenus séjourneront dans ces structures tous les 4 mois. Et par ailleurs, 300 places vont être attribuées aux détenus présentant les profils les plus violents et les plus hermétiques. Ils feront l'objet pour la plupart d'une surveillance accrue et seront isolés. La promesse du garde des Sceaux, c'est à terme de désengager la violence, mais il faut garder les pieds sur terre. Il n'y a hélas pas de vaccin contre la radicalisation, a-t-il conclu.
Pauline Renoir, merci beaucoup. C'est l'heure de la séquence interview maintenant avec Benoît Apparu, député Les Républicains de la Marne. On n'a pas besoin d'un Hollande de droite, disait ce matin le sarkozyste Éric Woerth.
Il a raison.
Il visait François Bayrou, mais peut-être aussi Alain Juppé, on n'a pas bien compris. Et quand même être traité d'Hollande
de droite, c'est un cran de plus dans l'escalade à droite entre vous.
Éric Woerth a raison, nous n'avons pas besoin de Hollande de droite, il a tout à fait raison. Il ne me semble pas qu'Alain Juppé soit visé, ou en tout cas, s'il était visé, il s'est trompé de cible.
On voit bien qu'il y a une
question de Stéphane Robert.
On voit bien qu'il y a une offensive en direction de François Bayrou et d'Alain Juppé hein, pour dénoncer. Alors on laisse entendre que François Bayrou participera au gouvernement, qu'il y a une alliance qui est en cours. On parle de compromission idéologique. Et puis on dit justement, on n'a pas besoin de Hollande de droite à ce sujet-là. On agite un petit peu l'épouvantail Bayrou du côté des sarkozystes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas de bonne guerre finalement, puisque est-ce que d'un côté les juppéistes n'agitent pas un petit peu l'épouvantail Sarkozy en direction des électeurs du centre et du centre-gauche?
Que soit de bonne guerre, évidemment, on est en campagne électorale et chaque parti, entre guillemets, utilise les arguments pour essayer de mobiliser son cœur de troupe. Donc c'est de bonne guerre effectivement. Maintenant, est-ce que c'est juste comme argument ou est-ce que c'est cohérent comme argument? Là, j'ai un peu plus de difficultés. La thèse de Nicolas Sarkozy, c'est François Bayrou m'a fait perdre en 2012. Peut-être c'est vrai. Et donc si je comprends bien, il faut qu'on refasse la même bêtise en 2017 pour avoir le même résultat et perdre l'élection présidentielle. Il me semble que si c'est le centre qui nous a fait perdre en 2012, peut-être qu'il faut récupérer le centre pour éviter de perdre à nouveau en 2017. Premier point. Deuxième point, cette thèse, Nicolas Sarkozy est le premier à l'avoir épousée. Juste un truc que je comprends pas bien. Il y a un an, on a fait des élections régionales. Qui était président des LR? Nicolas Sarkozy. Qui, dans toutes les régions françaises, a organisé des listes LR, UDI, MoDem? Nicolas Sarkozy. En PACA, qui gouverne la région PACA? Christian Estrosi, avec des élus MoDem, des élus UDI, des élus LR. Idem pour le président actuel des Républicains, Laurent Wauquiez, qui dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes a la même majorité, incluant du MoDem. Pourquoi ce que Nicolas Sarkozy a eu le droit de faire dans les régionales, aux départementales, aux municipales de 2014, il serait interdit de le faire au niveau national? Là, il y a un point qui m'échappe. Soit il y a une compromission idéologique, comme ils le disent, mais à ce moment-là, ça veut dire que Nicolas Sarkozy, lui-même, ce serait compromis idéologiquement en 2015. Là, il y a un truc qui m'échappe.
Ça veut dire qu'ils sont en difficulté, en fait, les Sarkozy.
Ça veut dire qu'on trouve plein d'arguments, on essaie d'en inventer tous les jours de nouveau pour essayer de fragiliser Alain Juppé. Cette bonne guerre, pour reprendre votre expression, ça ne me paraît pas cohérent avec ce qu'a fait Nicolas Sarkozy il y a un an.
Stéphane Robert.
Il faut peut-être lire cette attitude à la lecture, justement, du sondage Ipsos-Cevipof qui est sorti ce matin sur la primaire à droite et qui donne un écart plus conséquent encore en faveur d'Alain Juppé. Il y a une certaine dynamique en votre faveur. C'est bon, je donne les chiffres en quelques... 41% d'intention de vote pour Alain Juppé, plus 4 en un mois, 30% pour Nicolas Sarkozy, moins 3. Est-ce que... Alors Emmanuel Todd disait tout à l'heure qu'il faut se méfier des sondages sur des choses qui n'ont jamais eu lieu, comme la primaire à droite notamment. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il faut y accorder un peu de crédit à cette enquête-là et aux sondages en général?
Oui, on va pas vous dire l'inverse. Évidemment qu'on regarde les sondages et évidemment que ça a une signification. Ça donne des tendances. Et quand vous avez 10, 20, 30 ou 40 sondages qui vous disent, dans tous les cas de figure, 40 sondages, après 40 sondages, Juppé l'emporte au second tour, ça donne une tendance. Mais Emmanuel Todd a raison. Nous sommes en train d'étudier en sondage un objet que nous ne connaissons pas. La trame traditionnelle d'une élection, on la connaît. On connaît la composition du corps électoral. Là, l'appréhension même du code électoral est difficile. Le sondage que je vous évoquais, celui du Cevipof, part d'une base tellement large, près de 20 000, qu'effectivement, le sondage qu'ils produisent est probablement scientifiquement le plus intéressant. Il n'en demeure pas moins que le corps électoral n'étant pas connu, c'est difficile d'en tirer des conséquences. Même si globalement la tendance est plutôt la bonne, et même si je suis à peu près convaincu que tous les autres candidats à la primaire échangeraient volontiers leur position contre la nôtre.
Il reste une minute, Stéphane Robert.
Et donc si vous avez l'impression d'être dans une certaine dynamique en votre faveur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le risque pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Il ne faut rien changer. Quand ça a été plus compliqué il y a un mois, parce que la courbe des sondages donnait le sentiment de pouvoir s'inverser entre Nicolas Sarkozy
et Alain Juppé. On est resté sur la ligne qui était la nôtre parce qu'on était convaincus que cette stratégie était la bonne et que surtout on ne change pas de stratégie au gré des sondages. Ben, c'est la même chose là, les sondages sont bons, on ne changera pas de stratégie pour autant. Et donc on va continuer à développer nos propositions, on va continuer à faire nos meetings tels qu'on l'entend, la campagne électorale telle qu'on l'entend, on ne changera rien. Ça, pas plus quand ça va mal que quand ça va bien.
Ça c'est bien pour gagner la primaire, mais après, est-ce qu'il ne faudra pas changer un petit peu, donner un peu plus de perspective, de choses un peu plus folichonnes, pour reprendre une expression utilisée par Alain Juppé.
Depuis quand une campagne présidentielle est là pour donner des choses folichonnes? J'ai pas le sentiment que l'attente des Français soit quelque chose de folichon. Et au-delà de l'attente des Français, j'ai pas le sentiment que la responsabilité des pouvoirs publics et politiques en France soit de faire des choses folichonnes, mais de faire des choses sérieuses. Ça fait 30 ans qu'on fait rêver dans les campagnes électorales, on en voit le résultat, peut-être que faire des choses sérieuses serait plus intéressant.
Voilà, donc effectivement, la tonalité de la campagne d'Alain Juppé avec donc Benoît Apparu qui était notre invité aujourd'hui. Merci encore d'être venu dans ce studio. Le calme est revenu, mais je parle de la météo, hein, sur la moitié nord-ouest du pays. Temps pluvieux ailleurs, température de 12 à 27 degrés, édition réalisée avec Brice Garcia. Et prochain journal est à 18h avec Anne Fauquemberg.